RTL Midi.
Le 12-30, Vincent Parizeau, Sophie Orange.
Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Sophie.
Bonjour Vincent, bonjour à tous.
Allez, on est parti avec 7h30 d'infos interactives. Vous nous êtes fidèles, merci à vous. On attend votre avis, votre expertise, votre expérience. Vous faites cette émission 32-10. Et tiens, notamment, si vous avez vu la dernière vidéo de l'association L214 dans un abattoir Doudan dans les Yvelines, des images édifiantes et choquantes, une nouvelle fois, un abattoir pourtant contrôlé en avril dernier, l'un des premiers d'ailleurs à avoir installé des caméras de contrôle. Mais alors, à quoi ça sert? Y a-t-il un niveau de violence, voire de maltraitance inhérent au travail dans un abattoir? À multiplier les vidéos, L214 n'est-elle pas en train de banaliser le phénomène? Comment mieux former le personnel des abattoirs? Et puis la loi sur les caméras qui devrait s'appliquer au 1er janvier, va-t-elle vraiment changer les choses? Eh bien, on va en parler avec son auteur, le député Olivier Falorni. Il sera avec nous à 13h05, mais avec vous, évidemment, bien sûr, pour dialoguer, pour échanger, discuter. Vous travaillez, vous avez travaillé en abattoir, vous connaissez ce milieu, vous défendez la cause animale ou bien la filière viande, vous dénoncez un discours culpabilisateur, eh bien on vous attend dès maintenant 32-10.
Marine Le Pen n'a pas reconnu avoir embauché son garde du corps sur les fonds du Parlement européen, un emploi fictif présumé. C'est pourtant ce qu'affirme un rapport d'enquête révélé par plusieurs médias. Mensonge éhonté, dit la présidente du Front National ce matin. Son bras droit, Florian Philippot, sera l'invité de RTL à 12h50. Le volte-face d'Emmanuel Macron sur le cannabis, contrairement à ce qu'il disait dans son livre, il n'est pas favorable à la dépénalisation. Des manifestants anti-Fillon perturbent l'arrivée du candidat à la mairie de Tourcoing. Fusillade spectaculaire sur l'A55 hier soir à Marseille. Un règlement de compte selon les enquêteurs ce matin. L'avenir de l'usine Alstom à Belfort, évoqué à Bercy. Et des scènes de liesse dans l'enclave espagnole de Ceuta au Maroc. 500 migrants ont réussi à franchir l'immense grillage de 6 mètres de haut. La météo avec vous, Valérie Quintin, bonjour.
Bonjour.
Toujours des températures agréables pour cet après-midi.
Oui, on garde quand même pas mal de douceur, même si elles ont baissé un petit peu sur la moitié nord. La moitié nord où d'ailleurs le ciel a quand même un petit peu de mal à se dissiper, enfin en tout cas au niveau des nuages, ça se morcelle très laborieusement. Pour autant, on aura des éclaircies, ça restera un peu plus chargé avec de faibles pluies près des frontières du nord en glissant jusqu'aux Alpes. Pour tous les autres, un temps très ensoleillé cet après-midi et des températures comprises entre 8 et 19 degrés avec 10 à Lille, 11 à Paris, 14 à Grenoble et à Lyon, 16 degrés pour Ajaccio jusqu'à 19 degrés à Mont-de-Marsan.
Et puis la question du jour sur RTL.fr. On vous demande aujourd'hui si vous approuvez le slogan de Paris 2024 des Jeux Olympiques « Made for sharing ». C'est le slogan du dossier de candidature. Alors vous le savez, la polémique est vive. Pourquoi un slogan en anglais? À l'Académie française, ils sont verts de colère. Bernard Pivot dénonce un renoncement. Et bien vous aussi, à l'évidence, puisque vous nous dites que vous n'approuvez pas ce slogan à 89%. 8% vote oui, vous pouvez continuer à voter. Et on va en parler après 13h30 avec le secrétaire d'État au sport qui évidemment soutient le dossier de candidature et le slogan, Thierry Braillard. Vous voulez échanger avec lui? 32-10.
RTL Midi.
Marine Le Pen nie donc avoir reconnu l'emploi fictif de son garde du corps au Parlement européen de Strasbourg, plus de 7000 euros par mois. C'est pourtant ce qu'affirme un rapport de l'organisme antifraude de l'Union européenne révélé par Marianne et Mediapart. C'est un mensonge éhonté, dit en fin de matinée la candidate à la présidentielle. Marine Le Pen empêtrée dans cette affaire depuis 2 mois, Julien Fautra.
Oui, en effet, démenti formel de la candidate. Je n'ai jamais reconnu quoi que ce soit devant des enquêteurs. D'ailleurs, je n'ai jamais vu, Marine Le Pen affirme en effet, n'avoir jamais fait l'objet de la moindre audition de la part de l'OLAF. En revanche, dans un communiqué, son avocat précise dans l'affaire qui concerne Thierry Légier, vous savez, c'est celle des présumés faux contrats de travail, il précise qu'en réalité, Marine Le Pen a fait procéder à cette régularisation comptable, une opération technique en fait, une régularisation elle aurait, dit-elle, effectuée en collaboration avec l'administration du Parlement européen. Marine Le Pen dénonce enfin les sommes, c'est plus de 7200 euros par mois, ce qu'aurait touché Thierry Légier comme salaire au titre d'assistant parlementaire. Ma cliente conteste absolument ces allégations, précise l'avocat de la candidate. Pour l'heure, une instruction judiciaire a été ouverte par le parquet de Paris et Marine Le Pen a contre-attaqué en déposant elle-même une plainte à l'encontre du secrétaire général du Parlement et du directeur de l'OLAF. Précision importante, si elle était mise en examen, Marine Le Pen a d'ores et déjà déclaré qu'elle serait toujours candidate à l'élection présidentielle.
Voilà pour le dossier. On va tenter d'y voir plus clair dans quelques minutes puisqu'on sera avec le vice-président du Front National, Florian Philippot. invité d'RTL Midi, donc à 12h50.
Encore un déplacement de campagne compliqué pour François Fillon. Des CRS l'attendaient ce matin devant la mairie de Tourcoing pour séparer des militants républicains et des anti-Fillon munis de casseroles. Le candidat à la présidentielle a participé à une table ronde sur la sécurité avant de visiter un centre social. Maxime Wolf, vous êtes devant l'hôtel de ville pour RTL. On peut dire que l'accueil a été mouvementé.
Casserole et nom d'oiseau devant la mairie de Tourcoing pour accueillir un François Fillon qui a pris le soin de rentrer par une porte dérobée. Que François Fillon se serve de la ville populaire de Tourcoing pour ses thématiques sociales et sécuritaires, ça ne passe pas pour certains habitants.
Mon avis perso, je pense que c'est complètement indécent. On a une population qui vit en dessous du seuil de pauvreté et un monsieur vient avec 900 000 euros. Nous, sur Tourcoing, on ne veut pas.
Je suis tourcoinois, je suis né à Tourcoing, je paye mes impôts à Tourcoing. On nous a virés avec la police parce qu'on n'est pas fioniste. Bah, casse-toi, ça sert à rien.
Pour la quarantaine de personnes de la CGT présentes également, c'est la question morale qui les a fait se déplacer ce matin.
Fillon, c'est le gentleman.
Il dit quoi, Fillon ? Ce que je fais, c'est pas moral, mais c'est légal.
Des gens ont la loi, on les met en prison. Donc c'est ce que tu mérites. C'est peut-être pour ça qu'ils sont là, la police, les CRS.
Après une table ronde avec les différents acteurs des quartiers, François Fillon est parti discuter avec des mamans dans un centre social. La presse nationale n'est pas conviée et jusqu'à présent, aucune interview n'a été accordée.
Maxime Wolf, correspondant de RTL dans le Nord. Et comme RTL vous le révélait dès hier soir, François Fillon ne se retirera pas de la course à l'Élysée s'il est mis en examen dans le Penelope Gate. Il s'était pourtant engagé au début de l'affaire.
Toujours au chapitre politique, une question. Les idées d'Emmanuel Macron sont-elles à géométrie variable ? Jour après jour, il précise son programme, quitte à l'évier. Évidence à se contredire. Dernier exemple, ce matin, dans une longue interview au Figaro, on note deux petites lignes seulement qui risquent de faire polémique puisque le candidat d'En Marche s'oppose à la dépénalisation du cannabis, y compris pour les petites doses. C'est assez surprenant, Vincent Derosier, parce que dans son livre Révolution, paru en novembre dernier, Emmanuel Macron avait dit exactement l'inverse.
Oui, dans ce livre-programme sorti le 24 novembre, Emmanuel Macron écrit qu'il est favorable à une dépénalisation de la détention de cannabis en petite quantité afin, dit-il, de désengorger les tribunaux. Mais dans le Figaro de ce matin, lorsqu'on lui demande s'il est favorable à la dépénalisation, il répond cette fois-ci « Non, je ne crois pas à la dépénalisation ni aux peines symboliques, cela ne règle rien ». Il prend donc un virage à 180 degrés. Est-ce qu'il a changé d'avis pour ne pas effrayer l'électorat de droite tenté de voter pour lui ? Pas du tout, répondent ses proches. Emmanuel Macron a simplement tranché définitivement cette question. Il est favorable à des amendes d'une centaine d'euros plutôt qu'à des peines de prison jamais appliquées. Ce changement de vocabulaire prouve surtout qu'Emmanuel Macron a eu un mal fou à arrêter une position claire sur ce sujet. Écoutez ce qu'il disait début novembre, interrogé par Mediapart, c'était juste avant la sortie de son livre.
Il y a des choses qu'on mature et je préfère plutôt que dire une chose et y revenir, être très transparent. Le trafic de cannabis nourrit une économie parallèle, etc. Et ça plaide plutôt pour le dépénaliser. Mes réserves sont de deux ordres. Un, si vous le dépénalisez, il y aura un déport vers les drogues plus dures. Et la deuxième, ça continue à poser un problème de santé publique.
Bon, la position semble aujourd'hui définitive. Oui aux contraventions, non à la prison. Dépénalisation ou non, Emmanuel Macron joue sur les mots au risque d'alimenter cette nouvelle critique de ses adversaires. Il n'a pas de colonne vertébrale.
Merci beaucoup. Vous pouvez évidemment réagir au 3210. En tout cas, il y a d'autres mesures annoncées dans cette interview au Figaro, à savoir créer un nouveau pouvoir d'injonction pour que les policiers, je dis bien les policiers, puissent, sous le contrôle d'un juge, interdire sans délai à quelqu'un de fréquenter une zone où elle commet des méfaits. Et puis, tolérer zéro pour la délinquance, avec 7500 emplois nouveaux dans la police, 2500 dans la gendarmerie et 15 000 places de prison en 5 ans. Voilà pour le programme Macron sur la sécurité.
RTL, il est 12h39. Une pause et dans un instant, la fusillade spectaculaire qui a fait un mort hier soir sur l'autoroute près de Marseille. Les enquêteurs ont apporté de nouveaux éléments ce matin. A tout de suite.
RTL Midi.
Vincent Parisot, Sophie Orange.
Et on connaît un peu mieux désormais le scénario de la fusillade de l'autoroute A55 hier soir près de Marseille. Le conducteur d'une Twingo abattu à bout portant à l'arme de guerre. Deux voitures l'avaient poursuivi. Hugo Hamelin, vous êtes en direct de Marseille pour RTL. Bonjour.
Bonjour.
Pour les enquêteurs, il n'y a désormais quasiment aucun doute. Hein. Il s'agit bien d'un règlement de compte entre malfaiteurs.
Oui, à cause de l'arme utilisée, tout d'abord une Kalachnikov, un assassinat bien préparé également, puisque les tueurs disposaient de deux voitures lorsqu'ils ont engagé cette course-poursuite. La victime était pistée. Tout ça s'est passé en milieu de soirée sur l'autoroute en direction de Marseille. Le préfet de police Laurent Nunez fait le point sur ce qu'ont vu plusieurs automobilistes médusés.
Deux véhicules en pourchasser un troisième sur une course-poursuite. Puis à un moment, il y a eu un échange de coups de feu entre les deux véhicules quand ils étaient au plus proche. L'un de ces véhicules a été accidenté avec un occupant à bord et un individu qui était dans l'un des deux véhicules poursuivants est descendu et a fait usage d'armes à feu contre le conducteur de ce véhicule, l'a abattu. Le véhicule s'est enflammé dans des conditions qui restera à déterminer et les auteurs sont repartis avec un seul véhicule, manifestement le deuxième ayant été incendié sur place.
Voilà, grosse frayeur pour les automobilistes de la 55, mais heureusement pas de victimes collatérales. Les tueurs ont donc incendié leurs deux véhicules, leurs armes ont été retrouvées à l'intérieur. Un pistolet a également été découvert dans l'habitacle complètement calciné de la victime, qui pourrait être identifié dans la journée. On l'a appris ce matin, c'est la GIRS, la juridiction interrégionale spécialisée dans le grand banditisme, qui est chargée de l'enquête.
Hugo, une autre fusillade a eu lieu quasiment au même moment à Aix-en-Provence, pas loin de là. Un homme a été tué, mais a priori il n'a rien à voir avec le mort de l'autoroute.
Non, l'assassinat de ce jeune homme de 25 ans tué de plusieurs balles de 9 mm serait lié à un différend familial. Il aurait tenté de régler un problème de violence conjugale. Rien à voir donc avec un règlement de compte entre malfaiteurs à proprement parler.
Hugo Hamelin, en direct de Marseille pour RTL.
On ouvre le dossier des abattoirs parce qu'après les moutons tués sans étourdissement, les veaux dont les fœtus étaient jetés à la poubelle, voilà maintenant les porcs visés par un pistolet électrique dans un abattoir des Yvelines. L'association L214 rend public une nouvelle vidéo, c'est la 10e en 4 ans. Dans cet établissement, des caméras de surveillance ont été installées, mais elles ne sont visibles qu'en interne. Les images de ce matin proviennent, elles, de caméras cachées par des militants de l'association L214. Caroline N., vous êtes devant cet abattoir pour RTL. Comment est-ce qu'on y réagit face à ces nouvelles accusations et ces nouvelles révélations ?
Alors, pour le moment, pas de commentaires de la part de la direction ni des employés de l'abattoir. Plus tôt ce matin, le directeur s'est dit choqué par les images, ajoutant que l'employé mis en cause avait été écarté de son poste. Mais selon l'association L214, il n'y a pas qu'un, mais plusieurs employés qui exercent les mêmes méthodes sur les cochons. Sébastien Arzac, cofondateur de l'association.
Sur ces images, on voit notamment des employés qui utilisent un aiguillon électrique, donc des chocs électriques sur les animaux pour les faire avancer dans le couloir de la mort. Donc c'est clairement des actes de maltraitance sur les animaux, au point qu'à un moment donné, il y a même des cochons qui sont sonnés tellement les coups sont violents sur les cochons. Quoi.
Pourtant, l'abattoir avait été contrôlé par les services vétérinaires en avril 2016. Une demi-mesure pour Sébastien Arzac.
La conclusion qu'on tire de tout ça, c'est que les rapports des services vétérinaires sont sans effet. C'est-à-dire que malgré les constats qui avaient été faits, les pratiques ne changent pas.
Avec ces images, l'association L214 va déposer plainte dans la journée contre l'abattoir auprès du tribunal de grande instance de Versailles.
Caroline N. dans les Yvelines pour RTL. Alors évidemment, on va en parler avec vous. Malgré toutes ces vidéos, les maltraitances continuent dans les abattoirs. Est-ce qu'il ne faudrait pas changer de méthode ? Est-ce que la présence de caméras votées à l'Assemblée ne va pas finalement mettre fin aux abus ? Elles seront normalement obligatoires à partir du 1er janvier. On sera d'ailleurs avec Olivier Falorni qui est à l'origine de cette loi. Il sera avec toi à partir de 13h05 et on vous attend au 3210.
Pas de pic de pollution demain à Paris. Les conditions météo s'améliorent. Le stationnement résidentiel, en revanche, lui, est bien gratuit aujourd'hui puisqu'il y a un pic de pollution aujourd'hui dans la capitale. Et à Londres, une nouvelle taxe va être mise en place à partir du mois d'octobre. 11,70 € pour les voitures d'avant 2006 qui veulent rentrer dans le centre de Londres.
Près de 500 migrants ont forcé tôt ce matin une immense barrière à la frontière entre une enclave espagnole au Maroc. Une double clôture grillagée de 8 km de long, 6 mètres de haut. Chaque jour, des migrants tentent de l'escalader, se blessent, finalement renoncent. Mais voilà, ce matin, des centaines de personnes ont réussi et elles ont pu entrer, Isabelle Date, dans cette enclave de Ceuta.
Oui, c'est toujours spectaculaire ce qui se passe sur ces deux confettis que sont Ceuta et Melilla, qui doivent faire ou aller 32 km² à L2, mais qui ont la particularité d'être les seules frontières terrestres entre l'Afrique et l'Europe, donc la porte d'entrée de l'espace Schengen. Et ils sont des milliers d'immigrants, principalement d'Afrique noire, à attendre, côté marocain, de pouvoir franchir ce qui sert de frontière, une double clôture métallique hérissée de barbelés. Pour ça, ils sont prêts à tout. Certains ont marché parfois plus d'un an pour arriver là, après avoir traversé le Sahara, puisse être caché dans la forêt, avec les moustiques, les maladies, la faim, pour fuir la police marocaine. Le scénario est toujours le même, des passages massifs, organisés et en force, avec des échelles de fortune faites de branches d'arbres. Ce matin, 500 personnes ont réussi à entrer dans la ville, dont certaines ont été blessées. Des images tournées par la télévision locale les montrent errants, euphoriques, dans les rues de l'enclave, au cri de « Liberté, liberté ». Ils savent qu'ils ont décroché leur ticket d'entrée en Espagne, faute d'accord de rapatriement avec la plupart de leur pays d'origine.
Isabelle Date. La sœur du roi d'Espagne, Cristina, mise en cause pour fraude fiscale, a été relaxée, mais elle écope tout de même d'une amende de 260 000 euros. En revanche, son mari est, lui, condamné à 6 ans de prison. Alexis Pinturo, bien placé après la première manche du slalom géant des mondiaux de ski en Suisse. Il est troisième. L'Autrichien grand favori, Marcel Hirscher, est en tête. Début de la deuxième manche à 13h30. W9, deuxième chaîne de France, grâce au foot. Hier soir, plus de 2 millions de personnes ont suivi la défaite de Saint-Etienne, 3-0 contre Manchester United.
Une courte pause et dans un instant, le numéro 2 du Front National, Florian Philippot. Marine Le Pen est-elle, oui ou non, épinglée sur ses affaires d'emploi fictif au Parlement européen? A-t-elle reconnu les faits? Elle a démenti. On va demander à Florian Philippot ce qu'il en est. À tout de suite. Invité d'RTL Midi, Florian Philippot, le vice-président du Front National. Bonjour.
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 Et merci d'être avec nous pour réagir, évidemment, aux informations de Mediapart et Marianne qui dévoilent un rapport de l'Office européen de lutte contre la fraude. L'OLAF, transmis en juillet dernier au président du Parlement de Strasbourg. C'est un rapport sur les assistants parlementaires de Mme Le Pen qui conclut que pour deux d'entre eux, la réalité du travail n'est pas démontrée. Le préjudice évalué à 340 000 euros. Et il est donc écrit, selon Mediapart et Marianne qui publie un document, que Marine Le Pen a reconnu devant les inspecteurs de l'OLAF qu'elle avait salarié fictivement son garde du corps Thierry Légier d'octobre à décembre 2011 pour un montant de plus de 41 000 euros. Alors, tout à l'heure, Marine Le Pen a nié avoir avoué quoi que ce soit. Vous confirmez ce que dit Madame Le Pen? Elle n'a jamais rencontré les enquêteurs de l'OLAF?
Oui, tout part en réalité d'une fake news, d'une fausse info de l'AFP qui a écrit absolument n'importe quoi. Marine Le Pen n'a jamais rencontré le moindre enquêteur de l'OLAF, elle n'a jamais reconnu quoi que ce soit. Et le sujet qu'évoquaient Mediapart et Marianne est totalement faux, puisqu'ils évoquent des salaires versés soi-disant à son assistant parlementaire, alors qu'il s'agit d'une régularisation comptable. L'argent n'est jamais allé à l'assistant, il est allé à un tiers payant, et il s'agissait de régulariser comptablement des salaires qui n'avaient pas été versés au tiers payant par le Parlement européen. Tout cela s'était fait en transparence, et c'est vraiment incroyable d'avoir monté une affaire qui ne repose strictement sur rien.
Mais justement, l'OLAF dit qu'effectivement, Monsieur Légier n'a pas touché cette somme. Alors peut-être il s'agit d'une régularisation, mais en même temps, l'OLAF écrit, encore une fois, que le contrat de travail présenté par Madame Le Pen, le contrat de travail de Monsieur Légier, serait un faux pour un emploi fictif. Ça aussi, c'est écrit noir sur blanc. Est-ce que Madame Le Pen a présenté un faux contrat de travail, quitte à ce que ce soit pour régulariser, comme vous dites, une situation?
Non, pas du tout. Elle a procédé à la régularisation sur 3 mois. D'une somme qui n'avait pas été versée par le Parlement européen au tiers payant. Je suis désolé, c'est un peu technique, mais ça fonctionne comme ça, là-bas. Il y a un tiers payant obligatoire, les salaires ne sont pas versés directement aux assistants, et le Parlement n'avait pas versé une somme sur plusieurs
mois. Donc elle n'a pas présenté de faux contrats de travail.
Mais pas du tout. Et évidemment, l'OLAF, vous savez ce que c'est que l'OLAF? Il faut quand même expliquer.
Office européen de lutte contre la fraude.
Voilà, l'OLAF, c'est le bras armé de la Commission de Bruxelles. C'est un organisme qui ne s'est pas saisi quand M. Schulz, socialiste allemand, ancien président du Parlement européen, a été épinglé pour de très nombreuses irrégularités, puisqu'aujourd'hui, il est au cœur d'un scandale dans la presse britannique et la presse allemande. On parle de jets privés à 20 000 euros de l'heure, on parle d'assistants fantômes, on parle de restaurants luxueux. Et l'OLAF, parce que ce sont les copains, ne s'est jamais saisi sur le cas de M. Schulz, qui prouve que c'est vraiment une affaire politique. Vous savez, l'Union européenne, via l'OLAF, veut notre...
Mais vous dites que les documents qui sont aujourd'hui présentés par Mediapart ou Marianne émanant de l'OLAF, vous dites que ce sont des faux?
Non, nous disons que l'OLAF a ici un raisonnement tout à fait politique et militant. C'est normal, je viens de vous expliquer pourquoi. Ce sont des européistes, nous sommes des souverainistes. L'Union européenne veut notre peau parce que nous voulons la peau de l'Union européenne.
Oui, mais l'OLAF dit par exemple, Madame Le Pen a présenté un faux contrat de travail.
Mais on se moque éperdument de ce que dit l'OLAF, je veux dire.
Ce qui nous intéresse en revanche, c'est ce que dit Marine Le Pen, et notamment l'emploi de son garde du corps, Monsieur Légier. Il est quoi, garde du corps ou assistant parlementaire, Monsieur Légier?
Le Parlement européen, c'est très bien. qu'il en est, puisque Marine Le Pen avait communiqué avec lui qu'il s'agissait d'une régularisation comptable vis-à-vis du tiers payant. Et bien évidemment, vous savez, nous souhaitons nous rendre le pouvoir au peuple français. On a face à nous
Florian Philippot.
Attendez, excusez-moi, laissez-moi finir, c'est très important. On a face à nous une caste d'européistes, dont l'OLAF, dont la Commission de Bruxelles, dont M. Schulz, qui sont, eux, jamais poursuivis pour rien. Je vous signale qu'au Parlement européen, il n'y a que deux partis politiques qui sont ennuyés. Il y a le Front National et il y a l'UKIP, le mouvement souverainiste britannique. Comme par hasard, c'est extraordinaire, les gentils européistes, les gentils fédéralistes, eux, ils ne sont jamais inquiétés.
Alors, Monsieur Philippot...
Quand M. Schulz est au cœur d'irrégularités graves, selon la presse britannique et la presse allemande.
En tout cas, Madame Le Pen n'est pas la seule aujourd'hui à être embêtée sur les questions d'assistants parlementaires, reconnaissez-le. Alors, on va parler de l'autre assistante parlementaire qui pose problème, Madame Griset, qui est très proche de Marine Le Pen depuis des années. Est-ce qu'elle a vraiment été son assistante parlementaire pour le Parlement de Strasbourg entre fin 2010 et début 2016? Au Parlement de Strasbourg, ils disent qu'ils ne l'ont même jamais vu rentrer dans le parking.
Oui, mais écoutez, bien sûr qu'elle l'a été. D'ailleurs, tous vos confrères la connaissent. Ça fait 20 ans qu'elle travaille avec Marine. Ouais. Ça fait 20 ans qu'elle est son assistante. Ça fait 20 ans que...
Est-ce qu'elle est allée à Strasbourg?
Mais bien sûr. Et je vais vous dire... D'ailleurs, vos confrères pourraient le confirmer.
Non, mais qu'elle soit une proche et qu'elle travaille avec Madame Le Pen.
Qu'elle est son assistante depuis 20 ans.
Son assistante personnelle.
Personne ne peut démontrer le contraire. Et quand
Marine. Mais pas son assistante parlementaire.
Bah, excusez-moi, faites la différence. Excusez-moi, vous êtes capable vous de faire la. Là, vous parlez à qui? Vous parlez aux députés européens que je suis ou vous parlez au vice-président du Front que je suis? Vous parlez aux deux. Alors écoutez, Marine Le Pen n'est pas de 8h.
Je vous ai présenté comme vice-président du Front National.
Oui, c'est ça. Bah, je vous annonce, si vous ne le saviez pas, que je suis aussi eurodéputé. Et je le suis en ce moment où je vous parle. Et Marine Le Pen n'est pas de 8h à 9h présidente, puis 9h à 10h eurodéputé, puis 10h à 11h présidente du Front. C'est ridicule cette affaire, et vous en convenez vous-même. On est en permanence. Son mandat parlementaire et on a en permanence sa fonction au sein du Front National. Vous savez, la réalité de tout cela, c'est quoi? C'est que nous sommes des résistants face à l'oppression de l'Union européenne. Hier, nous avons voté contre le traité CETA de libre-échange avec le Canada, qui est épouvantable pour notre industrie et notre agriculture. Tous les représentants de Macron et de Fillon ont voté pour. Voilà, elle est là, la réalité. Donc l'Union européenne a ses candidats, a ses petits valets, ils s'appellent M. Macron, M. Fillon et d'autres. Nous sommes en résistance face à ce système.
Mais c'est pas cette affaire qui explique. C'est pas cette affaire qui explique la grande discrétion du Front National depuis quelques semaines sur François Fillon?
Moi, je veux bien qu'on soit soi-disant en grande discrétion, mais j'ai dû faire 150 interviews sur le sujet et je lui ai même demandé de retirer sa candidature parce que j'estime qu'à cause de lui, on ne peut plus parler de fond, en tout cas pas assez. Or, nous avons 144 engagements à présenter sur le pouvoir d'achat, l'Europe, la sécurité, le terrorisme islamiste et nous continuerons de les présenter malgré les affaires de M. Fillon qui sont multiples et variées.
Merci beaucoup, merci Florian Philippot, d'avoir été en direct sur RTL et d'avoir répondu aux questions d'RTL Midi. Merci beaucoup. On marque une pause et on prend des nouvelles du ciel.
RTL Midi. Valérie Quintin, nouveau point sur le temps d'aujourd'hui de notre week-end. Alors pour cet après-midi, toujours assez beau.
Oui, il fera assez beau. Alors c'est déjà le cas sur la moitié sud. Là, le ciel s'est bien dégagé. C'est un tout petit peu plus laborieux au nord. Certes, on a quand même quelques poches ensoleillées, mais on a aussi encore pas mal de grisailles sur l'extrême nord et dans le nord-est. Dans le nord-est, la grisaille d'ailleurs devrait tenir toute l'après-midi. En revanche, ça pourrait se lever, mais progressivement, entre la Normandie, le bassin parisien ou encore la région centre, le plus beau soleil, on va le trouver vraiment tout au sud, entre le sud-ouest et la Méditerranée. Notez qu'il y aura de la neige en montagne, sur les Alpes. Pas grand chose à partir de 1400 mètres, puisqu'on attend de petites pluies plus bas qui vont remonter d'ailleurs jusqu'à l'Alsace. Un Mistral à 60 km/h de la vallée du Rhône à la Corse et des températures qui restent assez clémentes, comprises entre 8 et 19 degrés de Verdun à Mont-de-Marsan, 10 à Lille, 11 à Paris, 12 à Clermont-Ferrand, 14 à Brest et 17 à Marseille.
Et pour ce week-end, Valérie, c'est un peu plus froid, mais toujours du soleil.
On s'en sort bien encore ce week-end. Samedi, toujours un peu plus de grisaille quand même vers le nord-est, notamment pour la Lorraine et pour l'Alsace. Un soleil généreux ailleurs après dissipation des brouillards qui seront d'ailleurs assez denses demain matin. 11 degrés de moyenne pour la moitié nord demain après-midi, 14 pour la moitié sud. Dimanche, la même chose, en un petit peu plus froid. On pourra avoir une dégradation qui arrivera en fin de journée seulement par le nord-ouest, sinon un temps relativement bien ensoleillé avec toujours une grisaille un peu plus coriace vers le nord-est et des températures donc à peu près stables, 10 degrés de moyenne au nord et 14 au sud.
Merci Valérie. Dans son pays, il fait beaucoup plus froid qu'ici. Jonas Bo est l'un des maîtres du thriller norvégien. La presse anglaise lit de lui qu'il est le nouveau Stieg Larsson. Jonas Bo est l'auteur de thrillers scandinaves qu'il ne faut absolument pas rater. En ce moment, en librairie, les enquêtes de Jonas Bo sont à 5,90€ seulement en folio